Hey, au cœur de la mode avec Julien Dacosta.
Bonjour Julien Dacosta.
On est lundi matin. Je suis fier de moi. Je suis allé au défilé Stella McCartney qui était à 10h. Et je crois que tu as croisé Lena Mafoufs qui se dirigeait vers le défilé Stella McCartney et qui a dit la vérité première qui est...
Faut arrêter les défilés à 10h du matin.
En fait, faut arrêter les défilés après 18h et avant midi. Il faut faire des défilés entre 14h et 15h.
Mais ça, c'est vraiment le genre de phrase qu'on dit à la fin. Parce qu'au début, on se plaint pas du tout d'aller à un défilé à 10h du matin. On est plutôt motivé. Et là, ouais, à la fin, non, on n'en peut plus. C'était marrant qu'elle me dise ça, ouais.
Donc, nous sommes retrouvés. Avenue de Breteuil, pas du tout. Avenue de Breuil, j'imagine. Je crois que les très riches disent Avenue Breuil. Tu dis pas le T. C'est un marqueur social. Mais nous, on va dire Breteuil, parce que voilà. Donc, avenue de Breteuil, sur le terre-plein de cette avenue, qui a un marché, et c'est devenu le Stella's Market, le marché de Stella, avec plein de stands qui proposaient les dernières nouveautés, hein, en termes de matières à base d'algues, des matières à base de pommes, des matières à base de plein de choses comme ça. Il y avait aussi les gens qui, Nona Source, je crois que ça s'appelle, qui recyclent les matières non vierges de LVMH ou les surplus de LVMH en matière. Et ce qui était assez intéressant, disait Stella McCartney, c'est que tous ces gens ne se sont jamais rencontrés et qu'il y avait peut-être un brainstorm qui était en train de se dérouler sous nos yeux de tous les patrons, les fondateurs et les ingénieurs de ces marques qui étaient en train de se rencontrer. Et peut-être qu'il y a des choses nouvelles à aller ressortir de ça. Il me semble qu'il y avait les gens de Veuve Clicquot qui sont en train de mettre au point ou qui ont déjà mis au point une nouvelle matière à base des excès de raisin. Je ne sais pas comment on appelle ça, désolé pour la terminologie pas très précise. Quelque chose du raisin qui est réutilisé, qui devient une matière qui apparemment est super efficace pour faire des sacs, carrément.
Oui, c'est ça, c'était un peu le marché idéal de Stella McCartney. Il y avait plusieurs stands, il y avait aussi des stands de vinyle, on pouvait trouver des vieux vinyles. Bien. Pas mal avec son père en couverture, donc c'était assez rigolo. Il y avait aussi des stands où on pouvait trouver du Stella McCartney vintage.
Oui, ça c'est fou. Tu pouvais acheter des vieilles collections de Stella McCartney, mais sur des cintres en métal et pas si cher, hein. Et il y avait du bon matos, hein. Ils avaient soigné le truc, ils avaient soigné le stand. Les rédactrices ont foncé dessus.
Il y avait aussi un stand de trottinettes électriques et Paris Hilton et Nicky Hilton se sont arrêtées longuement. Elles étaient fascinées par ces trottinettes. Et en plus, alors par chance, il y avait une trottinette rose pailletée. Donc Paris Hilton fascinée tout de suite par ce modèle-ci. Et elles étaient à deux doigts de nous faire une démonstration, mais elles ont écouté très très longuement la petite démo elles allaient repartir avec leur petite trottinette peut-être.
C'est mignon, il y avait aussi un stand de paillettes qui était éco-responsable. Je n'ai pas compris comment, parce que je n'ai pas eu le temps, mais il y avait des paillettes qui étaient rigolos, parce que les paillettes, c'est un petit peu un massacre pour la planète. Hein. C'est un truc qui n'est pas du tout une bonne idée en vrai. Donc là, il y avait des paillettes qui n'étaient pas un massacre pour la planète. Donc c'est drôle l'idée qu'on peut être éco-responsable, mais quand même scintiller de milliards de feux.
Mais moi, j'aime bien l'idée de faire toujours des défilés comme ça en pleine rue, un peu, voilà, un marché, une rue parisienne. C'est assez efficace, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est toujours beau, toujours photogénique. Il y avait plein de grands-mères du 7e arrondissement aux fenêtres qui regardaient le défilé. Elles avaient l'air plutôt amusées avec la musique à fond. Parce qu'en plus, la musique chez Stella McCartney, c'est vraiment une musique qui réveille. Donc, on vous rappelle, 10h du matin.
Une rave.
Voilà.
Une rave. Il y a eu de l'acide à un moment donné.
C'est ça, ouais. C'est un peu faire son marché sous acide, quoi.
Et surtout, donc, toutes les fenêtres étaient ouvertes parce que c'était le moment du ménage lundi matin dans ces grands appartements de 800 mètres carrés qui étaient en face de nous. Et la musique disait « Vous êtes des animaux, arrêtez de vous reproduire, vous allez tous crever ». Qui était un message intéressant à aller proclamer aux gens de cet arrondissement. Rachida Dati était là, c'est bien que Rachida Dati ait pu se frotter à ce monde merveilleux de la mode, j'imagine. Je ne sais pas, non, peut-être pas. Une collection super, super enjouée, avec des... Ah, c'était drôle, il y avait des espèces de tenues qui faisaient parachute, c'est-à-dire que le vent s'engouffrait dans les tenues, et c'était lundi matin pour les mannequins aussi. Il y avait une mannequin, j'ai l'impression qu'elle n'arrivait pas à avancer, que ça lui faisait un effet parachute. Ça m'a bien fait rire. Beaucoup de miroirs un peu partout, ça miroitait, donc des miroirs incrustés dans des jeans ou dans des vêtements et tout ça, dans des napperons qui deviennent une tenue sur un garçon qui devait être le chaman de la bande, de cette bande de filles qui vont au boulot ou qui vont faire la fête, enfin elles font ce qu'elles veulent, c'est les filles Stella McCartney. L'autre truc remarquable, c'est comme des... Au début, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était... ça faisait partie vraiment des vêtements. Et en fait, c'est comme des badges et comme des colliers. Alors, ça écrit des choses. Ça écrit le mot love, L-O-V-E. Ça, il y a un cheval qui est tout miroité. Il y a un soleil tout miroité qui est posé dans un dos. Donc, vous ne le verrez pas forcément sur vos grenouilles ou sur Tagwalk, mais ils sont là. Et c'était une collaboration avec un artiste anglais qui s'appelle Andrew Logan, extrêmement sympathique, habillé comme l'as de pique, c'est-à-dire qu'il était vraiment habillé comme un, je sais pas comment te dire ça, quelqu'un qui a été dans les ashrams en 62, quelqu'un qui a été dans les premières raves en 87, multicolore, un arc-en-ciel quoi.
Ouais, c'était un peu le stand de hippie qu'on peut trouver parfois sur certains marchés, c'était vraiment ça.
Alors il récupère des bouts de miroir, des bouts de verre, et il les fait en forme de lune, en forme de soleil, en forme de smiley, en forme de choses comme ça. Et je parlais avec lui, et tout d'un coup débarque Jeff Koons, l'artiste américain Jeff Koons, hyper intéressé par son travail, hyper fasciné, qui lui donne son contact, il parle d'assistant et tout ça, c'était assez rigolo à voir. Et évidemment, Andrew Logan n'a compris qu'après coup, après avoir parlé pendant un bon quart d'heure avec Jeff Koons, que c'était Jeff Koons. C'est très mignon. C'est bien, quand t'es naïf toute ta vie, hein, c'est trop bien.
Mais c'était ça aussi que voulait Stella McCartney quand elle a eu cette idée de décor de marché avec plusieurs stands. C'était vraiment que les gens puissent se rencontrer, que ces créatifs puissent se rencontrer. Il y avait également le stand Wild and the Moon, qui est une chaîne de restauration qui propose une carte végane. Donc vraiment, c'était voilà, que les gens puissent se rencontrer et puissent proposer quelque chose cohérent avec la marque.
Trop bon défilé. Franchement, ça te met en joie. Ça te met de bonne humeur, tu vois où on est la marque, sans quoi elle croit, des bons vêtements.
Énormément de chance quand même avec le temps, parce que c'est hyper ensoleillé, donc c'est vraiment, on va vraiment faire notre petit marché tranquillou.
Quelqu'un mannequin très pâle qui voyait le soleil pour la première fois de leur année. Hein. Il y avait une jeune fille qui marchait les yeux fermés. Je sais pas ce que le soleil lui faisait, mais elle marchait les yeux fermés. Cate Blanchett au premier rang, Robert Downey Jr., qui je pense était dans des ashrams avec Monsieur Logan à un moment donné aussi, parce qu'il était bien, bien en forme. Et Anna Wintour sur un marché parisien. Ça, c'est quand même bien. Voilà, nous filons dans les studios enregistrer la voix pour 5 minutes de mode sur TMC, qu'on vous encourage à regarder tous les soirs avant quotidien, ou évidemment en replay sur la plateforme de TF1.fre à partir de cette semaine et pendant 10 jours, pendant 2 semaines en fait, tous les soirs sur TMC. Ne loupez pas, parce que c'est tout ce qu'on vous a dit, mais en image. Donc mieux. Voilà, sur les Champs-Élysées, on sort du défilé Louis Vuitton, qui était au 103 Champs-Élysées. Il y avait une foule colossale devant. C'était, je ne sais pas ce que c'était, c'était dantesque, pharaonique, Louis Vuittonesque. On sent vraiment la maison Vuitton dans un grand effort, qui moi me fait penser au grand effort de Vuitton en 1997, quand ils avaient embauché Marc Jacobs, qu'ils avaient commencé à faire des défilés femmes. Et même des défilés hommes, c'est-à-dire que Vuitton, avant 97, n'a pas de collection femmes et hommes. Et à partir de 97, Vuitton arrive sur le calendrier du prêt-à-porter et il fait une offensive médiatique complètement délirante, avec des campagnes de pub très très fortes, des défilés très très forts à chaque saison, etc., etc. Et donc là, on sent qu'il y a un nouveau PDG qui s'appelle Pietro Beccari, qui est très connu dans le milieu de la mode pour avoir fait passer Fendi la barre du 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, très connu pour être un des responsables de l'énorme essor de Christian Dior ces dernières années et qui vient d'arriver chez Vuitton au tout début de l'année 2023. Et je pense que même la boulangère au fin fond des Pyrénées est au courant que Vuitton a signé Farrell, que Vuitton est Vuitton veut faire du bruit et fait du bruit. Il y a vraiment un monde fou furieux qui vient au défilé et donc Zendaya, qui est j'ai l'impression la plus remarquable. Nouvelle recrue de l'écurie Vuitton, qui était dans une robe blanche, zippable, dézippable, qu'elle avait pas mal dézippée. Elle était très belle, on peut dire ça, euphémisme. Beaucoup de clients au premier rang aussi, qu'on voit. Alors, pas qu'un premier rang, j'ai rarement vu une telle pyramide de gens. La salle des VIP, il y avait combien de rangs dans la salle des VIP?
Je sais pas, ouais, avec Clément.
Un gradin, quoi.
Ouais, avec Clément, on a vite filé tout en haut pour se cacher, pour pas être dans les champs des caméras. Et c'est vrai qu'on était assez haut dans la pièce. Alors, le lieu du défilé, c'était ce bâtiment en travaux dans lequel ça n'a pas encore été révélé. On sait pas trop si ça va être une boutique. Ça va peut-être être une boutique concept, un peu comme la très grande boutique Dior qui vient d'être refaite Avenue Montaigne.
Une grosse rumeur que ce serait un hôtel.
Mais apparemment, ça va pas être un hôtel. Un hôtel. On ne sait pas encore. Je pense que.
Apparemment, c'était une banque avant. Quelqu'un m'a dit avant que je venais changer d'argent ici. Et c'est vrai que ça, c'est un lieu où tu te dis tiens, il y a dû avoir des intrigues d'espionnage, d'espions qui ont dû venir changer des roubles en dollars.
Mais voilà, ouais.
Dans les bonnes années de la guerre froide.
Un lieu très très grand, très haut de plafond, donc en travaux et.
Rôle de gare, on était dans la gare du Nord, mais ouais, sur les Champs-Élysées.
C'était très très grand et alors le décor, c'était une collaboration avec le set designer James Chinlund. Alors James Chinlund, apparemment, c'est une méga star des set designers, des décorateurs. Il a travaillé sur des gros films comme Batman, les Avengers, le Roi Lion, des trucs comme ça.
Ah ouais, quand même.
Et il a travaillé avec en collaboration avec le collectif espagnol Peñique, qui eux en fait travaillent avec donc du plastique recyclé et recyclable et qui recouvre en fait, qui s'amuse à recouvrir donc voilà des espaces immenses comme ça de plastique. Alors je crois que c'est du plastique qui s'apparente un peu à la matière des ballons, donc c'est un truc un peu extensible comme ça et qu'on peut s'amuser à recouvrir comme des grosses bâches. Et ça marchait hyper bien. Il y avait plusieurs nuances d'orange, de jaune. Ça faisait vraiment comme un coucher de soleil, une couleur vraiment très, très, très chaleureuse, très solaire à l'intérieur de cet immense lieu où il faisait très, 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 très chaud.
J'ai fait un malaise.
Ouais, voilà. C'était vraiment une expérience.
J'ai fait un malaise, super. J'ai dû sortir. Je me suis assis 5 minutes. Mais j'étais vraiment pas bien. J'ai cru que j'allais pas pouvoir y retourner.
Alors, je suis allé voir Anna Wintour au premier rang. Ouais, ouais. À chaque fois, chaque saison, je m'octroie une petite question comme ça à Anna Wintour.
T'as la chocotte à combien quand tu vas la voir?
Oh, moi, j'ai pas la chocotte.
Non,
j'ai pas la chocotte parce que je sais que je m'attends toujours à un vent, justement. Vaut mieux s'attendre à un vent. Et chaque fois, j'ai une réponse, je suis quand même content. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait du décor. Elle trouvait ça incroyable, mais elle m'a répondu, but it's a bit toasty. Donc, je pense qu'elle est très, très chaud. Voilà, oui. Ouais, effectivement, il faisait 45 degrés dans ce lieu.
Delphine Arnaud m'a dit, il fait chaud. Tout le monde disait, il fait chaud. Alors la collection, j'ai l'impression que c'est un peu la suite de la précédente, qui était vraiment l'idée d'une femme parisienne, donc d'un vestiaire peut-être plus calme que ce qu'on avait pu voir récemment. Il y a toujours des matières où tu comprends pas ce que c'est, à la première vue, à la deuxième vue, au final, tu comprends pas toujours ce que c'est. Donc il y a toujours cet esprit de recherche, donc dans les matières, recherche dans les formes. Il y a vraiment des vestes, des manteaux qui sont plus faciles à comprendre et plus commerciaux. Il y a des chemises à rayures verticales dans des pastels qui m'ont fait penser au costume de la Commedia dell'arte italienne 18e siècle. Il y a toujours des sacs un peu figuratifs, donc là ils sont en forme d'appareil photo, un appareil photo qui aurait gonflé. Il y a des sacs plus classiques avec le monogramme classique, il y a des sacs avec un grand LV, il y en a pour tous les goûts et les couleurs, de la plus avant-garde à la plus calme des clientes. Des chaussures noires et blancs, mon look préféré c'était sur Mika Erganaraz. Petit costume un peu noir comme ça, un peu mec, un peu fille, un peu cool. C'est Rien Van Rompuy qui ouvre le défilé. On sent, il y a Apolline aussi, on sent vraiment le canon esthétique de Nicolas Ghesquière. Il a vraiment un type de fille très spécifique que toi et moi on reconnaît depuis le temps.
Oui, bah d'ailleurs, Rien Van Rompuy, elle a commencé avec Nicolas Ghesquière. Nicolas Ghesquière, il a lancé beaucoup, beaucoup de mannequins.
Et c'est de l'ordre de l'obsession, son rapport avec les mannequins. Je crois qu'il peut garder une mannequin en exclusivité pendant 7 saisons, quelque chose comme ça. Alors que souvent, les mannequins en exclusivité, ça dure une saison au maximum, 2 saisons. Lui, il peut vraiment avoir un rapport comme ça très très fort et très puissant avec ces mannequins qui sont des muses et des gens qui incarnent vraiment son vêtement dans son imaginaire à lui. La musique très étonnante de la variété française. Je pense que en variété française, avec Nicolas Ghesquière, c'était dans la période Balenciaga. Il avait passé Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. J'en suis toujours pas remis. Et là, à nouveau, de la musique française. Mon voisin a chasamé, mais j'ai pas retenu le nom. Ça disait ma dernière cigarette, c'est ma dernière cigarette. Ça répétait vraiment, c'est ma dernière cigarette. Et sinon, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Voilà, mais c'était pas Céline Dion. C'était pas non plus Edith Piaf.
Alors, la première musique, c'était
grâce au Shazam magique de Clément.
Ouais, c'était la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan.
Voilà, et ben je crois qu'elle a chanté d'autres choses après encore. Donc, si vous voulez écouter, choix très surprenant. Il y a un défilé un peu mythique, Vuitton, par Marc Jacobs, où il avait mis que du Edith Piaf et la salle était en larmes. Voilà, je t'ai déjà raconté cette histoire, je pense, 250 fois. Mais Edith Piaf, ça fonctionne toujours aussi. Et donc, voilà, ça faisait très parisien. Peut-être que c'était l'idée, justement, de ce que je disais, d'une garde-robe assez française.
Ouais, de quelque chose de plus délicat.
Ouais, voilà. Il est moins dans un mood science-fiction. Quoique, le set, il faisait vraiment Mothership de vaisseau spatial de science-fiction.
Très, très Kubrick.
Ouais, sacré défilé encore. Et nous sortons de Mugler, qui était au Carrousel du Louvre. Julien, je crois que tu étais...
Hystérique. Complètement fou. C'est un des plus beaux backstage, je crois, que j'ai filmé. C'était incroyable. C'est le cliché ultime du backstage qu'on peut imaginer. C'est exactement comme dans le clip Too Funky de George Michael, réalisé à l'époque par Thierry Mugler. C'est un bordel complètement fou. Il y a beaucoup trop de monde, mais c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup plus de maquilleurs et de coiffeurs et d'assistants que sur tous les autres défilés. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des visions comme ça qui défilent et qui sont complètement folles. Et donc c'était dément, ça criait dans tous les sens, les mannequins étaient complètement folles, excitées, elles adoraient leur tenue, elles adoraient ce cliché qu'elles véhiculaient, elles adoraient cette image qu'elles véhiculaient, et donc du coup elles criaient, j'avais des mannequins qui me criaient Mugler parce qu'elles adoraient, ça les éclatait de crier Mugler, donc c'était complètement fou et surtout c'était très visuel, c'est-à-dire qu'il y avait des très longues traînes et ça, à filmer backstage c'est magnifique parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a à peu près 5 assistants qui tiennent les traînes qui sont très très longues, donc celle par exemple Anok qui clôturait le show, exactement, avait une traîne qui apparemment faisait 7 mètres de long. Et donc là, il faut imaginer, il y a 5 assistants qui tiennent derrière la traîne dans les mains et qui la déroulent au dernier moment. Et donc visuellement, c'est très 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 beau de voir une traîne aussi longue se dérouler et partir comme ça sur le podium.
Sur le podium, c'est encore mieux. Parce que sur le podium, il y avait toute une série d'énormes ventilateurs, des ventilateurs de type Beyoncé, qui marchaient extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des tentatives de parachute. Ben, aujourd'hui, il y en avait un chez Stella McCartney. C'est-à-dire une espèce d'effet de bouffant dans de la matière, mais là c'était des espèces de nylon d'une légèreté folle et les ventilos créaient des auras derrière les mannequins en fait. Donc il y avait soit une traîne de tête, donc vous aviez un espèce de long ruban de nylon qui part qui dessine un trait comme ça dans les airs derrière la mannequin, ou alors carrément sur Anok, la tête et tout le corps deviennent des espèces de traits. Donc vous comprenez plus ce que vous regardez quand de profil, en tout cas. De face, c'est sublime. De profil, c'est dingue. La salle, il y avait que des mâchoires par terre. La salle criait. C'était vraiment hystérique. Casting de fou, ça rappelait vraiment le Mugler, le fameux défilé Mugler de 1995 au Cirque d'hiver, où il y avait plein de stars qui étaient apparues, où James Brown avait clôturé le show et tout ça. Et donc, il y a Angela Bassett pour le côté hollywoodien, il y a Helena Christensen pour le côté mannequin mythique des années 90 qui ont bien connu les défilés de Mugler, il y a Anok Yai qui était une star en soi, Mariga Carla Boscono, il me semble que c'est Fan Bingbing, l'actrice chinoise mégastar.
Oui, c'était elle. Voilà, oui.
Ah ben bravo, qui a été bien applaudie par les gens et tout ça. Il y avait Fan Bingbing, actrice culte chinoise et Égérie L'Oréal, je ne sais plus si elle est toujours Égérie L'Oréal, mais je crois qu'elle a longtemps été en tout cas, qui est venue spécialement de je ne sais où, mais je pense d'un peu loin, pour faire ça. Et non, la performance aussi, c'est qu'ils avaient fait les fringues, mais ils ne savaient pas si les ventilos, tels qu'ils étaient placés au Carrousel du Louvre, allaient fonctionner. Et ils ne pouvaient pas réserver le Carrousel du Louvre il y a 15 jours ou 20 jours quand ils étaient en train de faire les vêtements. Donc ça a été un peu un quitte ou double. Et Casey Cadwalader était bien soulagé. Alors apparemment, ils ont fait quand même des tests dans des garages. Et Natasha Morris, notre productrice adorée, qui était là à côté de moi, qu'est-ce qui vous a fait vibrer ?
Ça faisait 4 ans que Mugler n'avait pas défilé sur le calendrier du prêt-à-porter depuis 2019, donc en fait pré-Covid. Et depuis le Covid, on ne l'avait pas vu et il était connu pour sortir des très très grosses vidéos très impressionnantes avec des effets de vent, d'apparition comme ça. Et là où il est très fort, c'est qu'il a réussi l'essai de faire la même chose et de faire la même image en défilé. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait parce que vu les vidéos, on se disait qu'est-ce qu'il va faire de mieux. Et en fait, il a réussi à transformer ça en défilé et à laisser tout le monde bouche bée quand même.
Ah oui, c'était vraiment magique. C'est-à-dire que ça défiait les lois de la gravité. On comprend vraiment plus qu'on regarde. C'est sublime comme image.
C'est tellement beau. Laverne Cox était là au premier rang. Elle était... Elle hurlait à la sortie du défilé de joie, d'excitation et tout ça. Paris Hilton qui débarque, mais pas en rose, pas en paillettes, tout en noir. Elle était comment en coulisses ? Nerveuse ?
Elle était dans sa loge, donc il y avait des loges spécialisées pour les stars. Donc vraiment
grand.
Ouais, PH, exactement. Donc vraiment, vraiment le cliché du backstage par excellence, avec des loges en plus secrètes pour les célébrités. Donc ça rajoutait une dimension encore plus excitante parce qu'on savait qu'elle allait avoir des petites surprises comme ça qui allaient ponctuer le casting. Moi, mon émotion personnelle, c'était vraiment Connie Fleming. Donc Connie Fleming, c'est un mannequin phare de l'époque Thierry Mugler. C'est vraiment une mannequin qui a une démarche vraiment génialissime, c'est-à-dire que quand elle défile, elle pique la vedette à n'importe qui derrière elle ou avant elle, c'est-à-dire que même dans les défilés de Thierry Mugler à la grande époque, quand vous pouviez voir Naomi Campbell défiler, Connie Fleming volait toujours la star, c'est-à-dire que Connie Fleming, elle a vraiment la démarche, ouais, je devrais pas le dire, mais si, Connie Fleming, elle a vraiment une démarche magique, génialissime, et donc de pouvoir lui parler, de la rencontrer et de lui dire surtout de la féliciter, lui dire vous avez vraiment une démarche hallucinante, c'était un petit moment pour moi. Oh. J'ai adoré faire ça, c'était trop chouette de lui demander, de m'expliquer la démarche Mugler, de m'expliquer comment on doit marcher chez Mugler et qu'est-ce qu'elle aime dans le nouveau Mugler. Ça c'était chouette et c'est bientôt dans une vidéo à nous.
Ouais, et ce qui était vraiment fascinant, c'était que justement dans les défilés d'avant 2019, enfin pré-Covid de Casey Cadwalader à Paris, je voyais vraiment beaucoup Casey Cadwalader travailler et c'était génial de le voir travailler. Et là, comme on était dans un espèce de fond très nocturne, sur fond noir, qui respecte vraiment les défilés Mugler, j'ai vraiment eu la sensation que qu'il était habité par Thierry Mugler, quoi. Et de voir un défilé Mugler de la grande époque, Natacha Maurice, vous avez bien apprécié, j'ai l'impression.
Écoutez, Loïc Prigent, j'ai du mal à m'en remettre. Non, c'était franchement, c'est le genre de défilé où on sait pourquoi on aime ce qu'on fait, et c'est le genre de défilé où on est de la chair de poule, et je dis ça même pas en rigolant, j'ai vraiment la chair de poule, et tout le monde hurle et tout le monde est en boucle dessus, et on sait que tout le monde va en parler pendant des semaines.
Oui,
ça
on
fait
voit
du bien.
On voit rarement une salle survolter comme ça.
C'est pris un petit coup de jus, quoi.
Parce que c'était dingue, parce qu'on a attendu 50 minutes avec une musique qui faisait bon. C'était un peu sup, c'était de la torture dans du noir et tout. Enfin, moi, j'étais vraiment au bout du rouleau, au bout de ma vie, et j'ai repris 12 points de vie grâce à ce défilé. Et vraiment, ça m'a cueilli. C'est vrai que ça te retonifie. C'était bien. Casey Cadwalader, chez Mugler, bonne pioche, hein. Bonne pioche. C'est fou quand même, Paris commence à dire bam, bam, bam. On a des collègues qui vont encore à des défilés, là, qui vont encore se prendre des claques. Mais pour nous, c'est fini. Bisous-joues tout le monde.
Bisous-joues tout le monde.
Bisous-joues tout le monde.
Mettez des likes, des plus, partagez, mettez des commentaires, partagez à vos amis, à vos parents, à votre frère, même si il s'intéresse pas à la mode, je suis sûre qu'il découvrira plein de choses avant de grand-mère. Et puis bonne nuit Loïc Prigent et Julien Dacosta.
Bonne nuit Natacha Maurice.
J'étais au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS.